Et le danger, lorsqu'on arrive à la fin d'une lettre de Paul, c'est de dire, d'accord, maintenant, il va dire au revoir, bonjour, au revoir, à bientôt, signer sa lettre. Et un peu comme, en général, dans la langue française, on ne lit pas tellement les formules de politesse, de salutation à la fin des lettres. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir agréer l'expression de mes sentiments les plus respectueux. Et on a tendance à passer par-dessus et se dire, bon, ça y est, c'est fini, allons à autre chose. Et pourtant, c'est fou ce que l'on peut voir lorsqu'on regarde. Lorsqu'on prend le temps d'observer. Et en fait, ce dernier chapitre, c'est un peu l'illustration de la vie chrétienne. C'est, si on a bien compris les 15 chapitres précédents, alors on devrait avoir le même genre de relation que Paul avait avec les personnes dont il parle ici. Ce chapitre va nous montrer que Paul aimer les gens. Paul se souciait d'eux. Il connaissait, comme son maître, notre Seigneur Jésus-Christ, il connaissait ses brebis par leur nom. Il se souciait du devenir de chacune d'elles. J'ai déjà partagé que la première fois que nous avons mis les pieds à Calvary Chapel à Seattle, nous avions parlé à un pasteur assistant qui nous avait demandé nos prénoms, qui nous avait encouragé, nous avait accueillis gentiment. Et combien nous avions été touchés la semaine suivante lorsqu'en revenant nous n'étions pas sûrs de vouloir revenir et puis le Seigneur nous a dit non, allez-y. Et une semaine plus tard, ce même pasteur, nous voyant de loin, nous a crié « Hey, Pierre et Nancy, bonjour !» En anglais, je crois qu'il a dit. Je ne crois pas qu'il ait fait l'effort de parler français. Peut-être même, j'ai oublié. Mais on a dit que le mot le plus important dans la langue entière, c'est notre nom, notre prénom. Et c'est tellement important de prendre le temps d'enregistrer, de se rappeler le prénom des gens que nous rencontrons. Il n'y a rien de pire que d'être appelé Monsieur Petrigani alors qu'on s'appelle Petrignani. Et pour vous, c'est la même chose. Je suis sûr que je vois des regards qui se font entre quelques personnes. Ici, peut-être qu'on s'est rappelé du mauvais prénom. Mais Paul connaissait ses brebis par leur nom. Et des fois, on se dit, mais j'ai pas la mémoire des noms. Il y a des petits moyens pour s'en souvenir. On peut essayer d'associer le nom avec quelque chose, avec une image. J'ai eu du mal avec Jacques et Françoise parce que leur nom de famille, c'est Bernard. Et donc, au début, j'appelais Jacques, je l'appelais Bernard. Et je suis sûr que, quelque part, il disait, bon, ben, je vais l'appeler Petrigani. Et simplement, c'est un signe de l'intérêt qu'on porte aux gens. De se dire, cette personne, elle a une personnalité, elle a un caractère, elle a une histoire, elle a des projets, elle aime le Seigneur ou elle ne le connaît pas encore. Mais d'être capable de se rappeler de son prénom. C'est vrai que il m'arrive des fois d'avoir ma mémoire qui me joue un tour et j'ai tellement peur de me tromper que j'arrive plus à me souvenir du prénom même de personnes très proches. Et je vais dire la dame qui s'occupe des livres, au lieu de dire Nina. Et ne le prenez pas mal, des fois j'ai tellement peur d'oublier les noms que je les oublie. C'est un peu... enfin j'en sais rien, mais priez pour moi. Cette lettre de Paul aux Romains, on a vu que c'était un exposé théologique profond qui racontait, qui exprimait les vérités théologiques d'une façon grandiose. On a utilisé des termes un peu pompeux, un peu difficiles, la justification par la foi, la sanctification, la glorification, des termes qu'il est important d'expliquer. Mais en fait, ce dernier chapitre nous montre que la lettre de Paul, c'était pas une lettre pour les théologiens. C'était une lettre pour des gens comme vous et moi. Et donc, aujourd'hui, on est un peu comme si on avait trouvé le portable de l'apôtre Paul. Il n'y avait pas de portable, mais aujourd'hui, on pourrait regarder en deux coups de bouton quel était son répertoire. À ce propos, ça me fait penser que Françoise Bernard va passer parmi vous pour reprendre les informations concernant votre adresse, vos dates d'anniversaire, mois et jours, pour reconstituer un répertoire des membres et des amis de l'Église. Entre parenthèses, comme ça, maintenant, elle n'a pas besoin d'expliquer pourquoi elle vous demande tous ces renseignements. On trouve ici le répertoire de l'apôtre Paul. On va voir les gens qu'il connaissait à Rome et aussi à Corinthe, d'où il écrit cette lettre de Paul aux Romains. Et au fur et à mesure, on va essayer de trouver des informations ou de repérer des choses que l'on peut savoir à partir des noms, et on va pouvoir peindre un peu une idée, une image des relations humaines de l'apôtre Paul. Relations humaines qui, bien sûr, étaient guidées par relation avec Dieu et son désir de les amener à la connaissance de Jésus pour leur salut. On va lire à partir du verset 1, chapitre 16, et nous allons nous arrêter au fur et à mesure. On a tout d'abord un mot de recommandation. Verset 1, si vous avez besoin de Bible, vous pouvez faire un signe, Sébastien vous en portera ou Rémi. Je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est venue en aide à beaucoup et aussi à moi-même. Phébé, notre sœur, elle était du port de la ville de Corinthe qui s'appelait Sancré, qui était à une dizaine de kilomètres de la ville de Corinthe où résidait Paul au moment où il écrit sa lettre. C'était une sœur, dans le sens une sœur en Christ, une femme chrétienne, c'était une servante, et elle était même, son service était tellement important qu'il était reconnu. Elle était diaconesse, le féminin de diacre. C'est un mot qu'on emploie encore dans certains milieux chrétiens. C'est un mot un peu vieilli, diacre et diaconesse. Mais sachez que lorsque vous vous mettez au service de Dieu dans l'Église, vous devenez un diacre ou une diaconesse. Et ce qui compte, c'est pas tant le titre que la réalité et l'amour de votre service. Paul la recommande pour qu'elle vienne, pour que les gens lui viennent en aide. Lorsqu'il est dit que elle venait en aide aux gens, il est dit pour toute affaire. C'était en fait le mot pragma, dont on tient le mot pragmatique. Elle avait un ministère, peut-être même un commerce ou quelque chose en dehors de ce qu'elle faisait à l'église. Et elle devait aller à Rome, et donc Paul lui confiait l'épître qu'il envoyait à l'église à Rome. Et quelqu'un a dit, jamais messager n'apportait un message plus important. Vous vous souvenez, au tout début de notre étude, on a rappelé l'importance du livre de Paul aux Romains. On a dit que c'était un des écrits qui avait le plus influencé l'histoire du monde. Luther, c'est en lisant la lettre de Paul, il y a un livre qui explique où il a lu ce livre et qui explique sa vie. Luther a été amené à lancer le mouvement de la réforme à partir du livre de Paul aux Romains. Le grand chrétien qui était saint Augustin s'est converti en lisant des versets du chapitre 13. La plupart des mouvements de réveil se sont fondés dans ce livre de Paul aux Romains, avec toutes ces vérités qui sont expliquées si clairement et si fortement. Et c'est une sœur, une femme, qui a eu l'honneur d'être celle qui a amené cette lettre à Rome et grâce à laquelle nous pouvons aujourd'hui étudier et être enrichis, être édifiés par cette lettre. À l'époque, on utilisait des lettres de recommandation, il n'y avait pas le téléphone ou Internet pour dire il y a quelqu'un qui vient de chez nous, soyez accueillants. Donc on remettait une lettre de recommandation. Son nom, Phébé, nous fait penser au mot Phébus. Si vous vous souvenez, La Fontaine utilisait ce mot de Phébus pour désigner le soleil dans certaines de ses fables. Et son nom, ça voulait dire qui brille. Phébé, elle brillait au firmament des saints de l'Église. C'est la première personne nommée, c'est une femme. On va voir que Paul n'était pas le macho que certains pensent qu'il était, notamment dans les passages comme Éphésiens 5 où il dit que la femme doit se soumettre à son mari comme le mari se soumet à Christ. Certains pensent que c'était un sacré macho, Paul. J'ai même trouvé aux États-Unis, il y avait un livre de psychanalytique sur les problèmes de l'apôtre Paul, qui était écrit, je crois, par des femmes. Et donc, il y a cet amour et cette reconnaissance du rôle des femmes dans l'Église que l'apôtre Paul a mis en valeur, qu'on va voir tout au long de cette lettre. Ensuite, verset 3, on va lire les versets 3 à 16. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Christ Jésus, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rends grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épianète, mon bien-aimé, les prémices de l'Asie pour Christ. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et compagnons, mes compagnons de captivité, qui sont très estimés parmi les apôtres et qui ont même appartenu à Christ avant moi. Saluez Ampliatus, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui a fait ses preuves en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, elles qui prennent de la peine pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a pris beaucoup de peine pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur, ainsi qu'Olympas, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises du Christ vous saluent. Quand on voit cette liste, on se dit, est-ce qu'il n'a pas oublié quelques personnes qui vont être très vexées? Souvent, on n'ose pas dire les noms parce qu'on a peur d'oublier quelqu'un, alors on dit bonjour à tous. Mais là, on voit la précision. Paul n'écrivait pas à une église désincarnée, il écrivait à des individus. Et ça, c'est un message essentiel dans le christianisme. Dieu s'occupe de chaque personne. Et Paul se fait le reflet de ce souci de chacun, de chacune, en nommant toutes ces personnes par leur prénom. Pour la plupart, des fois, il fait des références à des frères qui sont avec eux. Mais il commence d'abord par Prisca et Aquilas. À l'époque, il n'y avait pas encore de bâtiment officiel pour l'Église. Il a fallu attendre à peu près l'an 350 après Jésus-Christ pour que des édifices soient construits seulement pour le culte. Et avant cette période, les gens se réunissaient dans ce qu'on appelait des églises de maison. Nous-mêmes, nous avons commencé par nous réunir dans notre salon avenue Fragonard pendant des années. Une époque où, Marie-Christine s'en souvient, chaque culte était suivi d'un repas. On tirait la table et Nina aussi a connu ça, et d'autres. Et Prisca et Aquilas, ils étaient connus, partout où ils allaient, ils commençaient une église de maison. Ils avaient d'abord été à Rome, et puis il y avait eu un édit, on lit ça dans, on peut regarder acte 18, on va regarder où il est question d'eux. Verset 1 du chapitre 18 des Actes, c'est page 155 dans la Bible à la Colombe. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, c'est-à-dire l'Asie mineure, le Pont Euxin, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, c'est le diminutif de Prisca, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de s'éloigner de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez lui, et ils travaillaient ensemble. Ils étaient de leur métier fabricants de tentes. L'empereur romain Claude avait écrit une loi qui disait que tous les juifs devaient quitter Rome. Et à cette occasion, Aquila avait dû quitter Rome et s'était installé à Corinthe, où là il avait fait la connaissance de l'apôtre Paul avec sa femme Priscille, et ils étaient devenus de très bons amis. Ils faisaient le même travail, ils fabriquaient des tentes de camping. C'était pas pour le camping, c'était pour habiter, pour voyager. Et nul doute que c'est au contact de Paul qu'ils se sont convertis à la foi chrétienne. Et puis, ils ont voyagé avec l'apôtre Paul, qui leur a demandé de rester à Éphèse à un moment. Et à Éphèse, eux ont été une grande aide pour quelqu'un qui allait devenir célèbre dans l'église du premier siècle, Apollos. Apollos qui était un grand orateur, mais qui ne connaissait pas encore très bien la Bible, et il est dit que Prisca et Aquilis le reprenaient, lui l'instruisaient dans la foi. Ce qui est remarquable, c'est que la plupart des fois où ce couple est mentionné, c'est le nom de la femme qui vient en premier. Et par là, ça veut sans doute dire qu'elle avait une plus grande influence spirituelle que son mari. Mais il est important de le noter pour dire encore une fois que Paul n'était pas le méchant macho que l'on critique certaines fois, et que Prisca avait un rôle formidable. Lui, il avait un nom qui voulait dire aigle, aquilin, on dit un nez aquilin, pour un nez d'aigle, Aquilas. Elle, son nom n'était pas très flatteur, ça voulait dire petite vieille. Et puis quand on l'appelait Priscille, ça veut dire que c'était un diminutif, c'était la petite, petite vieille. Mais je crois que c'était un terme d'affection. Et peu importe le nom, souvent on va voir que les gens gardaient des noms qui pouvaient avoir des liaisons païennes, des connexions païennes. Mais peu importe, en Christ, ils étaient libres de donner à leur nom une toute autre image. Et c'est vrai que lorsqu'on choisit les prénoms de nos enfants à venir, peut-être que c'était votre cas, peut-être que ce sera bientôt le vôtre, c'est pas facile parce que on a tendance à attacher des personnes à des noms. J'aimerais bien appeler cet enfant Mario. Oh non, j'ai connu un Mario qui était comme ci, comme ça. Qu'est-ce que tu penses de Gwendoline pour une fille? Oh, c'est ridicule, Gwendoline. Ça fait mandoline. Et souvent, on a du mal parce qu'on associe quelque chose. Et ce qui est merveilleux, c'est que même si on ne trouve pas beaucoup de chrétiens qui s'appellent Judas, ça serait difficile. Mais on peut avoir des noms qui ne sont pas nécessairement des noms bibliques. Et notre vie peut nous faire des exemples, et après on n'hésitera pas à appeler quelqu'un Pierre, Manu, parce qu'on pensera à la vie de Christ dans ces personnes. Du moins, c'est notre souhait. On est très redevable à Prisca et Aquilas. Pourquoi ? Parce qu'il est dit ici qu'ils ont, évité la mort de l'apôtre Paul. Ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie, il est dit au verset 4. On n'a pas les détails. On sait que Paul, partout où il allait, c'était soit la révolution, soit le réveil. Et qu'il a, lorsqu'on lit le livre des Actes, on voit qu'il a passé pas mal de temps en prison, sous les coups, il a été menacé. Et apparemment, à un moment, Prisca et Aquilas lui ont sauvé la vie, pour notre bénéfice à tous. C'est pour ça que non seulement Paul leur rend grâce, les remercie, mais aussi tous les chrétiens, toutes les églises des païens. On remercie encore aujourd'hui Prisca et Aquilas d'avoir permis à l'apôtre Paul d'écrire les lettres qu'il n'avait pas encore écrites à l'époque. Saluer l'église qui est dans leur maison, comme on l'a dit, ils avaient dès qu'ils déménageaient, ils invitaient leurs voisins, leurs amis à découvrir la Bible, à parler, à prier Dieu. Épaïnette, mon bien-aimé, les prémices de l'Asie pour Christ, verset 5. Épaïnette, son nom veut dire digne de louange, louable, et en fait, lorsqu'il est dit les prémices de l'Asie, ça veut dire que ça a été le premier converti en Asie mineure. Et c'est vrai que lorsqu'on est dans le ministère, on se souvient des premières personnes que l'on a pu toucher. Et cette Épaïnette, il avait une place spéciale dans le cœur de Paul. Il avait été la première personne à se convertir en Asie mineure pour Christ par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Je me souviens, par exemple, que la première personne que j'ai baptisée ici à Nice, c'était Marie-Christine. Ça remonte à 1992 ou 13. Ça fait 10 ans. C'était à Loupébroun, une villa dont le nom veut dire Loupébroun, je crois que c'est du provençal, ça veut dire l'aubergine. Peu importe. Mais c'est vrai que je me souviens de ce baptême, c'était la première fois que quelqu'un était baptisé à Nice. Elle avait connu le Seigneur par l'intermédiaire de son ami et du pasteur que j'avais remplacé. Mais c'est des choses qu'on n'oublie pas. Et donc cette Épaïnette, c'était le premier fruit pour Paul. Il leur dit de saluer Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Marie, ce n'était pas une des Maries qu'on connaît, c'était une autre. Il y a au moins 6 Maries dans la Bible. C'est un nom hébraïque, ça vient de Myriam. Et une chose qui est connue, c'est qu'elle avait beaucoup travaillé pour l'Église. Elle avait pris beaucoup de peine pour vous. Quelqu'un a dit, mais Paul n'avait jamais été à Rome, comment se fait-il qu'il connaissait autant de gens? C'est un peu bizarre, ça. Sans doute, c'est pas des documents originaux, ça a été rajouté par la suite. En fait, même s'il n'y avait pas les Easy Galères et les Easy Jets à l'époque, il y avait des voies romaines qui assuraient les déplacements dans la sécurité, qui permettaient aux gens de voyager de longues distances sans risque de se faire assassiner en route. Et dans la communauté chrétienne de l'époque, les gens qui habitaient dans une ville se connaissaient, d'autres déménageaient, d'autres étaient chassés par la persécution. Donc il y avait déjà cette grande famille en Christ que nous vivons aujourd'hui, avec Mike et Becky à Paris, avec Nick à Ziegen, avec Wayne Taylor à Seattle. Il y avait déjà ce sentiment, et toutes les personnes que Paul mentionne ici, ce sont des personnes qu'il avait eu l'occasion de connaître personnellement. Et donc cette Marie, tout ce qu'il disait d'elle, c'est qu'elle avait pris beaucoup de peine pour vous. Ensuite, il parle d'Andronicus et de Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont très estimés parmi les apôtres et qui ont même appartenu à Christ avant moi. Alors, suivant les manuscrits, si c'est Junias, c'est un nom d'homme. Si c'est Junia, c'est un nom de femme, auquel cas ça pourrait être un couple. Andronicus et Junias. Andronicus, c'est un nom latin, c'est un nom romain, donc c'était un païen. Et Junias, aussi un nom grec. C'était ses parents. Ça peut vouloir dire plutôt, en fait, Andronicus et Junias, c'était sans doute des juifs, pardon, c'était pas des romains. C'était des juifs parce qu'il dit que c'était ses parents. Peut-être que ce n'était pas des proches parents, parce qu'on voit que le terme est utilisé plusieurs fois. C'était peut-être des gens qui descendaient de la tribu de Benjamin, qui les auraient encore rendus plus proches de l'apôtre Paul, qui venait de cette tribu. Mais ça avait été des compagnons de captivité. Là encore, ça fait allusion aux nombreux épisodes de la vie de Paul, qui a passé beaucoup de temps à faire du ministère en prison. Pas seulement comme aumônier, mais comme prisonnier lui-même. Et ils ont passé du temps avec lui, et il reconnaît qu'ils étaient respectés parmi les apôtres, et ils avaient connu le Seigneur avant lui. Donc il est possible aussi que il ait reçu d'eux, qu'ils aient prié pour sa conversion. Là, on en est réduit un peu aux conjectures parce qu'on n'a pas de détails. On ne veut pas faire trop de suppositions, mais on voit qu'il avait beaucoup d'estime pour ce couple ou ces deux hommes, si c'était deux hommes. Saluer Ampliatus ou Amplias, qui était son bien-aimé dans le Seigneur. On va voir que l'expression « mon bien-aimé » elle revient 4 ou 5 fois. Lorsqu'il s'agit d'hommes, il dit « mon bien-aimé », il l'utilise pour une femme, mais il est prudent, il dit « la bien-aimée », pour ne pas prêter à confusion. Et chaque personne, c'est une expression qui revient, il parlait d'elle en Christ. C'était cet Ampliatus ou Amplias, oui, était son bien-aimé dans le Seigneur. Plus loin, quelqu'un avait fait ses preuves en Christ. Ceux de la maison de Narcisse sont dans le Seigneur. Notre communion fraternelle, elle n'est pas basée sur des sentiments humains, elle est basée sur notre appartenance à Christ. Et c'est ce qui fait sa force. Elle va au-delà des émotions, des sentiments. Elle est fondée en Christ. Nous sommes un en Christ. Nous sommes son corps. Ça va bien au-delà de l'amitié, des sympathies qui ne sont pas basées sur Christ. Cet Amplias, il y a une tombe dans les catacombes de Rome qui porte ce nom. Et on pense qu'il est possible que ce soit le nom de cette même personne. Là encore, on ne peut pas être sûr. Mais c'est intéressant de voir la réalité des personnes dont parle Paul au travers de ces vestiges archéologiques. Il y avait, après un compagnon d'œuvre en Christ, c'était Urbain. Et puis Stachys, un autre bien-aimé, verset 9. Le dénommé Apelles avait fait, lui, ses preuves en Christ. Ça veut dire qu'il avait subi des épreuves difficiles, mais qu'il avait, résisté aux épreuves, il avait gardé la foi, il avait gardé le combat. Et Paul se souvient de lui comme ayant fait ses preuves en Christ. Il parle de la maison d'Aristobule. Alors là encore, ça fait penser un peu à Astérix, des noms pareils. Mais Aristobule, il avait une maison, et là aussi c'était sans doute il y avait une église de maison chez Aristobule. On pense que peut-être il était de la famille. Non, c'est le suivant. Aristobule, on pensait que c'était un grec. Par contre, Hérodion, le suivant, verset 11, on pense que lui descendait peut-être de la famille du roi Hérode. Et donc lui aurait été de Idouméen. Et il aurait eu donc un, il aurait été d'un milieu social aisé, de la noblesse de l'époque. Il y avait ceux de la maison de Narcisse, encore probablement encore une autre église de maison. Tout cela sont dans le Seigneur. Verset 12, il y a Tryphène et Tryphose. Est-ce que vous aimeriez pas avoir un prénom comme ça? Je m'appelle Tryphène. Et ça, c'est ma sœur Tryphose. On pense parce que leurs noms sont si voisins que ça devait être des jumelles. Et leur nom veut dire délicate et petite. Apparemment, c'était deux petites jumelles. Physiquement, elles ne devaient pas être très impressionnantes, mais elles prenaient de la peine pour le Seigneur. Encore une fois, c'est pas les capacités, c'est l'attitude qui compte. Et même si vous n'êtes pas fort physiquement, même si vous n'êtes pas rapide mentalement, même si vous n'êtes pas doué pour la peinture, doué, tout ce qui compte, c'est de se mettre au service. Après, le Seigneur va vous amener à ce qu'il a pour vous, il va vous équiper, mais Perside, c'est pas elle qui faisait la lessive, non, c'était son nom veut dire qu'elle venait de Perse. Elle était aussi bien aimée. Elle aussi, Paul s'en souvient parce qu'elle a pris beaucoup de peine pour le Seigneur. Elle ne comptait pas sa peine. Elle ne disait pas « je vais faire tant que ça me rapporte ». Non, elle était là, elle était disponible. Et elle a pris beaucoup de peine pour le Seigneur. Il y a ensuite question de Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. On fait souvent le rapprochement avec un passage dans l'évangile de Marc qui, parlant de la crucifixion de Christ, dire que les Romains, à un moment donné, parce que Christ était tellement fatigué, épuisé après avoir subi une flagellation terrible, qu'il titubait sous le poids de la croix, ou du moins d'une portion de la croix, que les soldats romains avaient forcé un passant, quelqu'un qui regardait le défilé de Christ, portant sa croix, quelqu'un qui revenait des champs, il n'avait pas prévu, il se trouvait en quelque sorte au mauvais endroit, au mauvais moment, il l'avait forcé à porter la croix de Jésus. Et là, quand les soldats romains vous demandent de porter la croix, ça ne se refuse pas, ça, parce que sinon, on risque de s'y retrouver soi-même. Et cette personne, si vous vous souvenez, c'était Simon de Cyrène. Et dans Marc 15, 21, il est dit que c'était le père d'Alexandre et de Rufus. Et le fait que l'évangéliste Marc parle de Rufus comme de quelqu'un de connu, que Paul ici parle de quelqu'un, d'un Rufus que tout le monde connaissait, on pense en fait que c'est la même personne. Et donc Rufus, son père, avait porté la croix de Christ. Nous sommes tous invités à prendre la croix de Christ. Son père l'avait fait physiquement, renoncer à nous-mêmes. Et la mère de Rufus, donc l'épouse de Simon de Cyrène, Paul dit que c'était aussi sa mère. Alors ça ne veut pas dire qu'ils étaient frères, ça veut dire simplement que Paul, qui visiblement à l'époque n'avait plus ses parents, cette femme l'avait pris en affection et l'avait aimé comme une mère aimerait son enfant. Et ça, c'est tellement important aussi, c'est tellement encourageant de voir ça aussi parmi nous, des personnes qui peuvent entourer d'affection, d'une affection maternelle ou paternelle, d'autres personnes. C'est tellement important. Verset 14, une liste de noms, Asyncrite, Phlégon, Hermès, pas trop bas, ni trop haut, non, pas trop basse, Hermas. Les frères encore qui sont avec eux, on pense là aussi il y avait encore un autre groupe de maisons. Les noms indiquent différentes origines raciales. Verset 15, saluez Philologue, c'est un joli nom, Philologue, c'est qui aime le logos, qui aime la parole. Puissions-nous tous être des philologues. Peut-être pas des Tryphènes et des Tryphoses, mais des philologues, c'est pas gênant. Encore des femmes, Julie, la sœur de Néré, sont mentionnées. On a aussi le nom de Néré est mentionné dans l'histoire non biblique, comme quelqu'un qui avait des chrétiens qui avaient été condamnés, qui avaient été exécutés. Et là encore, on retrouve la connexion avec la réalité. Ce n'est pas seulement une jolie lettre, un beau texte ou des noms imaginaires. C'est des gens, des chrétiens qui ont vécu à l'époque, qui se connaissaient, qui s'aimaient, qui ont souffert, qui ont persévéré ensemble. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises du Christ vous saluent. Donc nous disons... Il y a un passage dans Hébreu où ceux d'Italie nous saluent, mais là, toutes les églises saluent les chrétiens romains. Et nous pensons, nous avons des amis qui viennent de Rome, on a aussi des amis qui travaillent à Rome. C'est intéressant que Rome est devenu le fief du catholicisme qui a mis à égalité le pouvoir de la tradition par rapport à la parole de Dieu, qui a... même s'il a continué à honorer le nom de Christ, a amené beaucoup de choses qui ont fait du tort à la foi chrétienne. Il était dit là de se saluer par un saint baiser. C'était une coutume de l'époque, c'était la façon dont on se disait bonjour. Et c'est vrai que notamment les Américains ont un problème avec ce verset. Parce que les Américains n'aiment pas faire des bises en public. Les bisous, c'est réservé aux relations amoureuses, c'est quelque chose de, ou à la limite entre parents et enfants. Mais sachez que lorsque vous avez des visiteurs américains et que vous leur faites la bise, surtout les hommes qui embrassent les hommes américains, c'est très dur pour eux. Il leur faut toute la grâce du Seigneur pour les aider à le faire. N'hésitez pas à le faire, au contraire, c'est bien pour eux. Leur culture s'est éloignée beaucoup du contact physique. Et nos cultures gardent encore, surtout les cultures de l'Europe du Sud. Il y a des hommes dans certaines cultures qui se tiennent la main sans pour autant que cela veuille dire qu'ils sont homosexuels. Et donc les Américains disent que c'était la tradition à l'époque, les églises étaient séparées entre frères et sœurs, donc les filles faisaient des bises ensemble, les hommes ensemble. Ce qui compte, c'est que ce soit un baiser saint, donc sans arrière-pensée, et c'est une pratique qui est biblique, donc nous n'avons pas à changer. Il y a eu, dans l'histoire de l'Église, il y a eu ce qu'on appelait les pères de l'Église, des grands hommes religieux comme Clément d'Alexandrie qui dit qu'en fait cette pratique a été abusée, ça a été porté à trop loin, et il disait que dans les églises on n'entendait que des bruits de bisous, et il a dit ça, il faut que ça cesse. Donc là, c'est là que ça a commencé à devenir plus régulier. D'autant qu'il y avait des mauvais rapports. On disait, oui, c'est fait entre chrétiens, c'est bizarre. Alors là, on a fait rapidement la revue de ces noms, et on peut se dire, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer les différentes origines de ces noms. Donc, l'Église, il y avait des Juifs, comme Prisca, Aquila, Marie, des Grecs comme Aristobule, des Romains, Rufus, Urbain, Perse, Perside. Il y avait donc toute une variété ethnique dans le groupe. Il y avait tous les âges. Il y avait des femmes qui étaient jeunes, il y avait des mères, il y avait des parents, il y avait des hommes libres, il y avait des prisonniers, des esclaves. Plus loin, on verra qu'il est question des personnes que Paul connaissait à Corinthe. Et il y a notamment deux personnes qui s'appelaient Tertius et Quartus. Et ça, on pense que c'était en fait des esclaves, parce que les esclaves, on leur donnait le nom, c'était leur numéro. Il y avait Primus, Secondus, Tertius, Quatrus, Cinquus, quelque chose comme ça. Il n'était qu'un numéro, mais Paul utilisait encore ce nom en lui donnant toute sa valeur. Mais il y avait aussi bien ces personnes riches qui venaient de l'entourage du roi Hérode que des esclaves. Il y avait des notables, des hauts fonctionnaires. On verra, Paul habitait à Corinthe chez Gaius. Il avait un ami qui était Éraste, le trésorier de la ville. L'idée que les chrétiens ne doivent pas s'investir dans la politique, c'est totalement faux. L'exemple de l'Église du 1er siècle nous montre qu'on peut très bien s'investir dans la vie de la ville, de la cité, tout en étant chrétien. Au contraire, il serait bon d'avoir davantage d'hommes publics qui soient chrétiens. Il y en a quelques-uns, Dieu merci pour eux, mais si vous vous sentez appelé à faire de la politique, sachez que ça peut être fait pour le Seigneur, au nom de Dieu. Ça peut être une bénédiction non seulement pour les chrétiens, mais pour les non-chrétiens. Une variété incroyable au niveau des races, des âges, des sexes, des milieux socio-économiques. Et ça doit être une des caractéristiques de l'Église. Et je me réjouis encore qu'on ait parmi nous des gens de toutes les origines. Et que Dieu nous garde d'avoir une église raciste, une église pour tel niveau socio-économique. L'amour, c'est pas seulement de se regrouper avec les gens qui sont comme nous. L'amour, c'est d'être ouvert aux autres et de prendre le risque de les connaître, de se faire connaître, d'être transparent, de se montrer tel que nous sommes. Et lorsqu'on le fait ça, on est vraiment le corps de Christ. Et on rend honneur à Christ. Et la merveilleuse chose, c'est qu'on en retire tellement de joie et de bonheur. Encore une fois, le racisme est quelque chose d'horrible aux yeux de Dieu. Et il n'y a aucune justification qu'on puisse trouver dans la parole pour le faire, pour s'y adonner. Les âges aussi. Qu'on ait des enfants et des personnes âgées, c'est une richesse. On ait des gens qui soient peut-être des responsables politiques. On a fait la connaissance avec Thierry d'une personne qui nous conseille dans l'association Acte 6. C'est en fait un ancien officier de l'armée de l'air qui a travaillé dans les ministères, qui a été rapporteur de projets au Sénat. C'est un homme très simple et qui maintenant s'investit dans le service des églises. Et toute cette richesse, qu'on ait des médecins, qu'on ait des hommes politiques, qu'on ait des grands ingénieurs, ça aussi c'est le corps de Christ. C'est pas seulement tout le monde doit être pasteur ou missionnaire ou au chômage, non. Tout le monde peut servir là où Dieu les place. Encore une fois, on voit que Paul s'intéressait aux gens. Et ça nous invite nous aussi. Et surtout, peut-être les gens avec qui on n'a pas tellement d'affinité. Il y a des personnes, on va naturellement vers eux parce qu'on a les mêmes intérêts, on a les mêmes goûts, on a la même formation. Mais c'est là aussi qu'il faut faire l'effort d'aller vers celui qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne connaît pas encore. Et ça, c'est vraiment un test de notre amour en Christ. Est-ce que nous accueillons l'autre qui est différent ou pas ? Et l'Église est encore assez petite où je vois ça en action, mais le danger qui nous guette tous, c'est qu'on se réunisse en cliques, des petites cliques, des petits groupes de gens qui ont les mêmes intérêts, le même âge, et ça, c'est pas l'amour de Christ. C'est de la ségrégation raciale, âge, sociale. Je vous ai peut-être parlé de mon ami malgache qui avait mis mon église à Seattle au test. On s'était connus à l'école biblique au Canada et on était tellement plein de zèle pour notre église. On lui disait, oh, tu vas voir, c'est une église formidable, c'est jeune, la musique est formidable, la parole est annoncée. Il a dit, c'est bien tout ça, mais je vais faire un test. Ah bon, qu'est-ce que tu vas faire comme test? Il m'a dit, je vais me mettre à l'arrière, dans le foyer, et je vais attendre pour voir combien de temps ça va mettre avant que quelqu'un vienne m'adresser la parole. Et à ma grande honte, personne n'est venu lui adresser la parole. On était une église formidable, pleine de zèle, d'amour, de joie. Mais on aimait tellement se retrouver avec les gens qu'on n'avait pas vus pendant la semaine. On voulait parler du pique-nique l'après-midi, on voulait s'occuper, on voulait acheter des livres, on voulait faire ceci, faire cela. On n'avait pas le souci de l'autre qui venait, qui était visiblement, il était malgache, donc noir de peau, et il était resté les bras croisés à l'arrière, sans rien dire à personne, et personne n'était venu lui parler. Ça avait été une grande gifle pour moi, et j'espère qu'on peut éviter ça, notamment lorsqu'on fait, on ouvre les portes pour recevoir des gens du quartier. J'apprécie beaucoup le cœur de Paul qui s'est fait un ami d'Alistair. Alistair, c'est une personne, il faut aller vers lui parce que c'est pas lui qui va vous parler. Alistair, vous le connaîtrez peut-être, il a un petit bout de mégot et tout ce qu'on peut sortir de lui, c'est « oui, hein, hein, hein ». Mais Paul, moi j'avais pas le temps pour Alistair, je dois dire. Parce que je disais, attends, je ne peux pas lui parler. Mais Paul, chaque fois, ne manque pas de lui dire bonjour, de lui faire un grand signe, de le sourire. Et je suis sûr qu'Alistair est touché par ça. Puissions-nous tous avoir cette attitude de recevoir l'autre, d'être un encouragement pour l'autre. Les gens ont tellement besoin d'amour. All you need is love. C'est pas moi, c'est les Beatles qui l'ont dit. What the world needs is love, sweet love. That's the only thing there is so little of. Of, c'est une rime un peu recherchée de Burt Bacharach. Les chansons parlent de l'amour, mais nous sommes à même. On n'est pas, pour recevoir l'amour, il faut d'abord le donner. Si vous sentez seul, si vous sentez isolé, allez vers les autres. Demandez-vous comment vous pouvez être un encouragement pour celui qui vient ou celle qui vient à l'église dont vous ne connaissez pas encore la situation mais qui est dans la douleur, qui est dans la peine, qui est dans la rébellion. Nous avons tellement à offrir aux autres. Nous avons un trésor. L'évangile, c'est un trésor dans des vases de terre. Nous, on ne vaut rien. Mais ce qu'on porte peut révolutionner le monde. Toutes les églises du Christ vous saluent. Paul, on pense que peut-être là, il prend la plume lui-même. On verra qu'en fait, la lettre, il l'a dictée. Il l'a dictée à number three. Numéro 3. À Tertius. C'est Tertius qui a écrit avec sa plume. Comme à l'époque, on avait des sténodactylos qui prenaient le langage en sténo. Maintenant, on enregistre, on filme, on met sur vidéo. Mais Paul, parce qu'il avait des problèmes de vision, avait du mal à écrire. Il y a un autre passage où il dit que, voyant les grosses lettres que j'utilise pour vous parler, il devait faire des gros caractères. Et là, on pense que c'est peut-être lui qui prend la plume. Il y a un changement de ton. Je vous exhorte, frères, verset 17, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre vente. Par de bonnes paroles et par des éloges, ils séduisent les cœurs et des gens sans malice. Pour vous, votre obéissance est connue de tous, je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosie Pater, mes parents. Je vous salue, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre dans le Seigneur. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église, vous salue. Eras, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. à celui qui a le pouvoir de vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps, mais manifesté maintenant par les écrits prophétiques, d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, en vue de l'obéissance à la foi, à Dieu, seul sage, la gloire par Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Dans ce dernier petit paragraphe, Paul met en garde l'Église contre les divisions. Il leur demande de se méfier des gens qui viennent pour se servir d'eux. Ils ne manquent pas de bonnes paroles, d'éloges, mais leur motivation est une motivation égoïste. Ils cherchent à profiter de l'Église. Et si nous avons cet avertissement, c'est que c'est un danger toujours possible aujourd'hui. On peut avoir des gens qui présentent mieux que l'apôtre Paul ou que Pierre, qui soient plus drôles, qui soient mieux organisés, et c'est tant mieux quand ils sont motivés par le Seigneur, mais souvent ces personnes peuvent chercher à profiter de vous, chercher à profiter de financièrement, de réputation, d'influence. Et Paul les met en garde contre ça. Les divisions sont l'une des deux façons dont Satan attaque l'Église. Il peut persécuter de l'extérieur ou il peut diviser de l'intérieur. Et je suis attristé de savoir qu'à Nice, récemment, il y a eu des divisions dans plusieurs églises. Je ne connais pas les détails, je ne cherche pas à les connaître, mais des églises de 80 personnes se retrouvent à 30 personnes parce que quelqu'un s'est mis en colère contre le nouveau pasteur. C'est quelque chose dont nous devons nous protéger, demander plutôt, nous devons prier pour que Dieu nous protège ça. Ce n'est pas notre force, mais qu'il y ait cette unité dans l'amour de Christ, les uns pour les autres. S'il y a des tensions, s'il y a des choses qui ne vont pas, qu'on en parle ensemble. Qu'on soit transparent, qu'on prie ensemble. Mais il n'y a rien de plus triste, non seulement pour les chrétiens, mais pour le témoignage auprès du monde extérieur. Parlé avec ce conseiller d'Actes 6 qui nous disait qu'en fait à Nice il y avait un responsable catholique qui suivait les églises et les sectes, les églises protestantes et les sectes, et qui disait qu'en fait c'est nous qui nous faisons le plus grand tort, les évangéliques. Nous avons tendance à penser que les autres sont des imbéciles, qu'ils n'ont rien compris à la parole, nous ne leur montrons pas de l'amour. Et à cause de ça, nous apparaissons comme divisés, nous apparaissons comme des petites sectes. Là encore, nous pouvons travailler ensemble. La fête de la Bible, la fête de l'unité, c'est des occasions de montrer que nous sommes tous représentants du corps de Christ. Tous nous sommes membres de Christ. Paul, au verset 19, leur dit que il veut qu'ils soient sages en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. On avait vu cette même idée dans 1 Corinthiens, où ne pas être des enfants au point de vue du jugement, 1 Corinthiens 14-20, mais pour le mal, soyez des petits-enfants, et pour le jugement, soyez des hommes faits. L'idée que ne cherchez pas à devenir des experts dans les mauvaises choses qui peuvent se passer, dans les péchés, dans la perversion. Des fois les gens se disent, il faut que je connaisse la drogue pour pouvoir être un encouragement auprès des drogués. Non, il n'y a pas besoin d'être un ancien drogué. Dieu peut racheter l'ancien drogué pour encourager les jeunes qui seraient tentés par ça, mais l'amour de Christ peut suffire. Il n'y a pas besoin d'être un ancien prisonnier pour réconforter les prisonniers. Si Dieu a fait cela, nous savons d'après le passage de 1 Corinthiens qu'il nous fait passer par des épreuves pour que nous soyons mieux à même, mais ne cherchons pas à aller en prison pour pouvoir aider les prisonniers. Soyons des innocents en ce qui concerne le mal et soyons sages en ce qui concerne le bien. Apprenons comment nous pouvons aider, comment nous pouvons faire du bien. Pratiquons le bien, ne pratiquons pas le mal. C'est un très beau conseil. Soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. On pourrait faire toute une étude sur ce verset, pourquoi sage est opposé à pur et en relation avec le mal, mais que ce soit quelque chose qui soit dans votre cœur. Combien de fois on regarde des films qui nous apprennent à connaître comment on peut tromper la banque. Et on s'émerveille, on trouve ça formidable, on dit « Oh, c'est rusé !»« Attrape-moi si tu peux, je crois. » C'était un film il y a pas très longtemps, c'était très plaisant à voir, mais en fait l'idée c'était de montrer comment on pouvait tromper les autres. Restons innocents sur ce genre de sujet. Le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ça, c'est une allusion, bien sûr, à la Genèse, lorsque l'Évangile avait été annoncé dès le jardin, dès la chute originelle, lorsque Dieu disait « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme », parlant au serpent, qui était Satan, « entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Nous avons à remarquer que c'est Dieu qui va faire le travail. Verset 20, c'est le Dieu de paix qui va écraser Satan. Mais notre part, ça va être sous nos pieds. Il va nous utiliser, ça part bien sûr de façon finale, pour la fin des temps, lorsque Satan va être jugé finalement. Mais à chaque victoire que nous remportons, sur le mal, à chaque progrès que nous faisons vers le bien, c'est un peu comme si nous écrasons. Si Dieu écrase Satan avec notre pied. Il faut la grâce du Seigneur pour accomplir cela. La fin, c'est encore une fois les personnes qui sont avec lui. Paul n'était jamais seul. Paul avait des amis de partout. La vie avait pour lui, c'était jamais la solitude du grand apôtre qui se mettait dans sa tour d'ivoire. Paul était toujours entouré d'amis, de convertis, d'inconvertis, comme Jésus. Et il termine cette lettre en se recommandant à Dieu, qui a le pouvoir de nous affermir selon l'Évangile et la prédication de Jésus-Christ. La révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps, c'est ce fait que juifs et païens sont un seul corps, c'est le corps de Christ, c'est l'Église qui est annoncée. Et nous avons la responsabilité de porter à la connaissance de toutes les nations pour obéir à la foi. Ça, c'est le programme de l'Église. Nous devons annoncer la bonne nouvelle autour de nous et amener à l'obéissance à cet Évangile. Il termine par « Adieu, seul sage, la gloire par Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. » La gloire de Dieu, elle est éternelle, elle n'est pas sans fin. Quand on dit quelque chose est sans fin, il y a eu peut-être un début, il n'y a pas de fin, mais là c'est d'éternité en éternité. Dieu qui est seul est la sagesse. Qu'à lui soit la gloire par Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Amen. Je demandais à Zoé si elle veut bien nous jouer ce dernier chant. On va reprendre. Seigneur, aide-nous à avoir la foi que cette parole est la vérité.
Lord, help us to believe, to have the faith that this word is truth.
Qu'elle peut être comprise en principe.
That it's possible to believe it in principle.
Mais qu'elle peut être vécue en pratique.
And that it can be lived in its practicality.
Seigneur, réduis la distance entre notre position réelle et notre expérience.
And Lord, please reduce the resistance between our position and our experience.
Seigneur, aide-nous à crier avec Paul, malheureux que nous sommes.
And Lord, help us to cry out with Paul, how wretched we are.
Seigneur, merci par ton esprit de nous donner la victoire et de nous encourager.
And thank you, Lord, for giving us through your spirit victory and to encourage us.
Et surtout, Seigneur, merci pour ton fils Jésus qui est mort pour nous.
And Lord, especially thank you for your son Jesus that died for us.
pour que nous puissions être relevés en nouveauté de vie.
So that we might be lifted up to you in our new lives.
Merci pour la vie que tu veux nous voir vivre, Seigneur.
And thank you, Lord, for the life that you would like to see us live.
Aide-nous à te faire confiance.
And help us to trust you.
Aide-nous à être aussi avoir des vis-à-vis.
And help us to get to know each other.
De pouvoir nous aider les uns les autres, de prier.
We can help each other. We can pray.
De nous reprendre.
And we can reprimand each other.
Avec amour pour ta gloire.
With love for your glory.
Merci Seigneur de ce merveilleux plan de vie, de cette vie abondante que nous pouvons commencer dès ici, Seigneur.
And Lord, thank you for this abundant life that you want to give us from today, Lord.
C'est pour aujourd'hui. Amen.
It's for today. Amen.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
And may the Lord bless you.
Je vous rappelle la réunion de prière 7h30 mardi matin pour les hommes et 2h pour les femmes au 7 boulevard de Magnan en dehors des autres réunions.
So Tuesday 7:30 prayer meeting for the men in the morning and 2 o'clock for the women.
Nous vous invitons à prendre un moment pour